Professeur Bernard, bonjour.
Bonjour.
Professeur Bernard, nous allons parler des maladies inflammatoires intestinales.
Voilà, ce sont des maladies chroniques qui touchent le sujet jeune et qui posent encore aujourd'hui des problèmes à la fois diagnostiques et je dirais surtout thérapeutiques difficiles et qui vont impacter la qualité de vie de ces jeunes patients pendant de très nombreuses années. Dans la mesure où on ne sait pas exactement quelle est l'origine exacte de ces maladies. Et ce qu'on sait par contre, c'est qu'on n'en guérit pas. C'est une forme de cohabitation pratiquement pendant toute la durée de l'histoire naturelle de cette maladie.
Alors, professeur Bernard, quels sont les noms de ces principales maladies ?
Alors, il y en a essentiellement deux, qui sont deux maladies assez voisines, mais qui ne touchent pas tout à fait le même segment du tube digestif. Il s'agit de la maladie de Crohn, qui est probablement la plus sévère par son évolution, et surtout qui a la caractéristique de pouvoir toucher la totalité du tube digestif, de la bouche à l'anus, bien que ce soit la partie terminale de l'intestin grêle et le gros intestin qui soient les localisations préférentielles. La deuxième maladie est la rectocolite ulcéro-hémorragique, qui a pour caractéristique de toucher exclusivement le rectum et éventuellement le côlon.
Professeur, quels sont les signes révélateurs de ces deux maladies ?
Alors, la maladie survient en général chez l'adulte jeune. Elle est un peu plus précoce pour la maladie de Crohn aux alentours de 20 à 30 ans que pour la rectocolite ulcéro-hémorragique aux alentours de 30 à 40 ans. Et il y a un deuxième pic de fréquence chez le sujet âgé, bien que l'incidence soit beaucoup moins fréquente à un âge plus avancé. C'est une maladie qui est plus fréquente dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe, sans que l'on sache pourquoi il existe ce gradient nord-sud. Et ce sont ces deux maladies qui augmentent progressivement d'incidence, là encore sans qu'on sache exactement pourquoi. Il y a des facteurs génétiques que l'on va retrouver à peu près dans 15 à 20% des cas, aussi bien pour la maladie de Crohn que pour la rectocolite hémorragique. Les signes révélateurs sont essentiellement des troubles intestinaux, un type de douleur abdominale, accompagnés généralement de phénomènes de diarrhée. Dans la rectocolite ulcéro-hémorragique, un signe est tout à fait caractéristique, c'est la présence de sang dans les selles, puisqu'il existe des lésions bas situées au niveau du côlon qui sont susceptibles d'entraîner des hémorragies qui ne sont jamais très importantes, mais qui malgré tout sont souvent révélatrices de cette pathologie. L'évolution, elle va se faire de façon chronique par poussées successives.
Professeur Bernard, est-ce que ce sont des maladies douloureuses ?
Alors, les patients sont au moins, à un moment donné de l'évolution de leur pathologie, confrontés à des phénomènes douloureux. Soit parce qu'il existe des sténoses du tube digestif, au niveau de l'intestin grêle et du côlon, dans la maladie de Crohn, uniquement au niveau du côlon, et ceci va provoquer, avec l'inflammation qui est associée à ces sténoses du tube digestif, tout ceci va aboutir à des douleurs. Il faut savoir que, dans la maladie de Crohn en particulier, et c'est pratiquement exclusivement dans cette maladie, on observe des localisations anopérinéales qui peuvent être extrêmement invalidantes, et qu'on va observer dans 60% des cas. En soi, ces localisations, que ce soit des abcès, que ce soit des fistules, vont être responsables de douleurs qui peuvent être extrêmement invalidantes. Et c'est tout l'enjeu que d'arriver à soulager ces patients pour leur éviter une évolution pénible et surtout pour que la qualité de vie de ces jeunes patients, qui ont souvent une activité professionnelle, ne soit pas trop perturbée.
Professeur, quels sont les signes révélateurs de ces maladies et quelle en est l'évolution dans le temps ?
Les signes, donc, sont en général des douleurs, bien souvent associées à une atteinte de l'état général, puisque touchant le tube digestif, ayant une évolution chronique, l'atteinte de l'état général va finir par survenir après quelques années d'évolution, et c'est essentiellement un amaigrissement qui est probablement le signe le plus pathognomonique. L'atteinte anopérinéale pour la maladie de Crohn, les hémorragies intestines, les hémorragies coliques pour la rectocolite ulcéro-hémorragique sont probablement les signes principaux. Comment va se faire l'évolution ? Par poussées successives, et il faut savoir qu'on peut avoir deux extrêmes. Des maladies qui vont quelquefois ne provoquer au cours de la vie qu'une à deux poussées, qui seront bien contrôlées par le traitement, et à l'inverse, des maladies beaucoup plus évolutives qui vont déboucher en quelques mois, quelques années, à malheureusement des interventions chirurgicales inévitables pour essayer de contrôler l'histoire naturelle de la maladie. Entre ces deux extrêmes, il y a tout un spectre, bien sûr, de modalités évolutives. Il faut rappeler également qu'à côté des troubles intestinaux dont on a parlé, il y a la possibilité de voir associer à ces manifestations digestives des manifestations générales très atypiques, que ce soit des douleurs articulaires d'origine rhumatismale, qui sont la traduction d'un syndrome inflammatoire avec une atteinte des os et des articulations. Il y a des éruptions cutanées, quelquefois tout à fait caractéristiques, qui peuvent être là aussi tout à fait invalidantes, des atteintes du foie et des voies biliaires, et également des atteintes rénales qui peuvent évoluer vers une insuffisance rénale. Tout ceci participe au cortège, je dirais, de maladies inflammatoires et immunitaires générales qui sont des signes d'accompagnement de ces deux maladies inflammatoires intestinales dont, je vous le rappelle, on ne connaît pas exactement l'origine.
Professeur, quelle est la fréquence de ces maladies dans la population générale ?
Alors, ce sont des maladies qui restent malgré tout des maladies rares. On estime l'incidence annuelle à 5 cas pour 100 000 habitants. Ça n'est pas totalement négligeable, c'est l'incidence du nord de la France. Cette incidence est doublée dans les pays scandinaves et anglo-saxons. Là encore, comme je vous le disais, une maladie plus fréquente en Europe du Nord. Elle est rare dans le bassin méditerranéen et en Afrique.
Professeur Bernard, quels sont les moyens de diagnostic à notre disposition ?
Alors, ils sont doubles. On a évidemment recours, comme pour les tumeurs digestives, aux examens endoscopiques qui sont des examens de confirmation. L'endoscopie nous donne accès au côlon et à la partie terminale de l'intestin grêle et on mettra en évidence les lésions caractéristiques de ces deux maladies, des ulcérations séparées par des intervalles de muqueuse saine et qui peuvent être relativement profondes, associées éventuellement à des lésions anopérinéales pour la maladie de Crohn. Et pour la maladie de Crohn, une association possible avec des ulcérations au niveau de la partie terminale de l'intestin grêle, c'est ce qu'on appelle une iléite. Les prélèvements biopsiques qui sont réalisés à ce niveau permettront de confirmer le diagnostic en mettant en évidence une infiltration lymphoplasmocytaire associée quelquefois à des follicules gigantocellulaires tout à fait pathognomoniques de la maladie, mais que l'on va retrouver dans moins de 50% des cas. Pour la rectocolite ulcéro-hémorragique, là encore, la coloscopie permet de mettre en évidence, dans la quasi-totalité des cas, une atteinte du rectum avec une muqueuse inflammatoire et souvent hémorragique au contact de l'endoscope sans intervalle de muqueuse saine. Là encore, les prélèvements permettront de confirmer avec certitude le diagnostic de rectocolite ulcéro-hémorragique. En complément de ces examens endoscopiques, des examens morphologiques de l'intestin grêle pourront être très utiles. C'est le cas du transit baryté de l'intestin grêle qui maintenant est remplacé par l'examen du grêle par résonance magnétique nucléaire et encore le scanner abdominal ou l'entéroscanner qui permettent de visualiser l'état de la paroi intestinale au niveau de l'intestin grêle qui aujourd'hui encore est difficilement accessible à un examen endoscopique.
Professeur Bernard, où en sommes-nous des traitements à l'heure actuelle ?
Les traitements sont nombreux. Ils sont nombreux et en général, quand il y a beaucoup de traitements, c'est qu'aucun n'est parfaitement adapté. Néanmoins, on a depuis longtemps traité ces deux maladies par les anti-inflammatoires qui ont été les premiers médicaments disponibles pour essayer de contrôler le facteur inflammation, qui est un facteur qui, a priori, joue un rôle très important dans le déclenchement et l'évolution de ces deux maladies. Que ce soit les dérivés de l'aspirine, que ce soit les dérivés de la cortisone, ces deux médicaments permettent dans la majorité des cas de contrôler une poussée, je dirais, aiguë de la maladie. Néanmoins, les traitements au long cours par la cortisone présentent des inconvénients et peuvent être utilement remplacés par les immunosuppresseurs. Et les immunosuppresseurs permettent, sur le long terme, avec un minimum d'effets secondaires chez des sujets jeunes, de contrôler l'évolution à long terme de la maladie. Il faut savoir que ce sont des traitements au long cours. Quand on dit au long cours, c'est en général plusieurs années. Et on a toujours la crainte, à l'arrêt du traitement, d'avoir un effet, évidemment, rebond et de voir repartir la maladie, dans la mesure où l'évolution est totalement imprévisible et en général extrêmement capricieuse. Les traitements anti-inflammatoires restent aujourd'hui encore en France la base du traitement initial. Les traitements immunosuppresseurs ont fait la preuve de leur efficacité et sont utilisés en relais. Le progrès probablement le plus significatif dans la prise en charge de la maladie de Crohn et maintenant de la rectocolite ulcéro-hémorragique au cours des dernières années a très certainement été le recours à des anti-inflammatoires qu'on va appeler ciblés, notamment sur la régulation des mécanismes de l'inflammation. Et c'est le cas des anti-TNF-alpha, qui sont des anticorps bloquants que l'on peut utiliser en perfusion, là encore au long cours, pour essayer de contrôler l'évolution des maladies de Crohn sévères. Et très vraisemblablement, l'utilisation de ces traitements a permis d'éviter à un certain nombre de patients des gestes chirurgicaux, forcément délabrants, puisque en général, la chirurgie de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique aboutit à des gestes de résection qui vont bien entendu obérer les capacités fonctionnelles du tube digestif, surtout quand les gestes chirurgicaux sont répétés. Donc les anti-TNF-alpha font maintenant partie de l'arsenal thérapeutique du traitement des maladies chroniques inflammatoires intestinales. Ces produits sont néanmoins relativement difficiles à manipuler, dans la mesure où ils ne sont pas dénués d'effets secondaires, ne serait-ce que le risque de démasquer une infection chronique qui serait passée inaperçue, et je pense là à la tuberculose. C'est pour ça qu'un bilan exhaustif très soigneux est effectué avant d'instaurer ces traitements au long cours. Ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, c'est combien de temps, nous n'avons pas encore suffisamment de recul, combien de temps ces traitements doivent être prescrits. Là encore, l'administration de ces médicaments fait des progrès. L'administration par perfusion aujourd'hui cède le pas à une administration par voie sous-cutanée qui va probablement dans l'avenir grandement faciliter la prise en charge, j'allais dire ambulatoire, de ces jeunes patients qui pour la plupart ont une activité professionnelle et qui seront quand même confrontés à une maladie chronique pendant toute leur vie.
Professeur Bernard, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.